Non, mais dis donc, ce qu'il fait, c'est que le marché. Alors que là,
c'est sur la rue.
Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Version tirée du spectacle mis en scène par Stéphane Véru et interprétée par François Clavier. Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, n'en ayons qu'un seul. Qu'un seul soit le maître, qu'un seul soit le roi. Voilà ce que Ulysse déclara en public. S'il eût dit seulement « il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres », c'était suffisant. Mais au lieu de déduire que la domination de plusieurs ne peut être bonne, puisque la puissance d'un seul, dès qu'il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il ajoute au contraire n'ayons qu'un seul maître. Il faut peut-être excuser Ulysse d'avoir tenu ce langage qui lui servait alors à apaiser la révolte de l'armée. Je crois qu'il adaptait son discours plutôt aux circonstances qu'à la vérité. Mais à la réflexion, c'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître, dont on ne peut jamais être assuré de la bonté, et qui a toujours en son pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Quant à obéir à plusieurs maîtres, c'est être autant de fois extrêmement malheureux. Je ne veux pas débattre ici la question tant de fois agitée, à savoir si d'autres républiques sont meilleures que la monarchie. Si j'avais à la débattre, avant de chercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique, je demanderais si on doit même lui en accorder aucun. Car il est bien difficile de croire qu'il n'y ait rien de public dans ce gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps cette question qui mériterait un traité à part et qui provoquerait toutes les disputes politiques. Pour le moment, je voudrais bien comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, qui ne saurait leur faire mal aucun s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose étonnante. Et pourtant si commune, qu'il faut d'autant plus éprouver de la douleur que s'en ébahir. Voir un million de millions d'hommes servir misérablement la tête sous le joug, non pas contraints par force, mais comme enchantés, charmés par le seul nom d'un, dont il ne devrait pas craindre la puissance puisqu'il est seul, ni aimer les qualités puisqu'il est à leur endroit inhumain et cruel. Nous sommes ainsi faits que les devoirs communs de l'amitié absorbent une bonne part de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les belles actions, d'être reconnaissant pour les bienfaits reçus. Si donc les habitants d'un pays trouvent parmi eux un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves d'une grande prévoyance pour les sauvegarder, d'une grande hardiesse pour les défendre, d'une grande prudence pour les gouverner, s'il s'habitue à la longue à lui obéir et à se fier à lui jusqu'à lui accorder une certaine suprématie. je ne sais s'il serait sage de l'enlever de là où il faisait bien pour le placer là où il pourra faire mal. Mais qu'est-ce donc que ceci ? Comment dirons-nous que cela s'appelle ? Quel malheur est celui-là ? Quel vice ? Quel malheureux vice ! Voir un nombre infini de personnes non seulement obéir, mais servir. Non pas être gouverné, mais tyrannisé. N'avoir ni bien, ni parents, ni femmes, ni enfants, ni leur vie même, qui soit à eux. Les voir souffrir pillage, paillardise, cruauté. Non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul, non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un homme laid, non seulement inapte à gouverner aux hommes, mais encore tout empêtré à servir la moindre courtisane. Comment nommer cela ? Lâcheté ? Dirons-nous de ces hommes soumis qu'ils sont vils et couards ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c'est étrange, mais toutefois possible. On pourra peut-être dire avec raison que c'est manque de cœur. Mais si cent, si mille souffrent l'oppression d'un seul, dira-t-on encore qu'ils n'osent s'en prendre à lui, ou plutôt qu'ils ne le veulent pas ? Si on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million d'hommes n'en assaillir pas un, qui les traite tous comme autant de serfs et d'esclaves. Comment pourrions-nous nommer cela ? Est-ce lâcheté ? Tous les vices ont quelques bornes, outre laquelle nous ne pouvons passer. Deux hommes, même dix, peuvent bien en craindre un, mais que mille, un million d'hommes, mille villes, ne se défendent pas contre un seul, ça n'est pas de la couardise. Elle ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas d'un homme seul qu'il escalade une forteresse, attaque une armée, conquête un royaume. Donc, quel monstre de vie c'est ceci qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez vilain, que la nature désapprouve avoir fait et que la langue refuse de nommer. Qu'on mette d'un côté 50 000 hommes en armes et d'un autre autant. Qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains. Les uns libres combattent pour leur liberté, les autres pour la leur ôter. Auxquels promettez-vous la victoire ? Lesquels iront le plus courageusement au combat ? Ceux qui espèrent pour récompense de leur peine le maintien de leur liberté ? Ou ceux qui n'attendent pour salaire des coups qu'ils donnent ou qu'ils reçoivent que la servitude d'autrui ? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un bien-être égal pour l'avenir. Ils pensent moins à ce qu'ils endurent le temps d'une bataille qu'à ce qu'ils endureraient vaincus. Eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont rien qui les enhardisse, qu'une petite pointe de convoitise qui s'émousse soudain contre le danger et dont l'ardeur s'éteint dans le sang de leur première blessure. Aux batailles si renommées de Marathon, des Thermopyles, de Salamine, qui datent de plusieurs milliers d'années, qui sont aujourd'hui encore aussi fraîches en la mémoire des livres et des hommes que si elles eussent été livrées hier, qui ont été données en Grèce pour le bien des Grecs et l'exemple du monde entier, qu'est-ce qu'on pense qui donna à un si petit nombre de gens, comme étaient les Grecs, non pas le pouvoir, mais le courage de soutenir la force de tant de navires que la mer elle-même en débordait, de défaire des nations en si grand nombre que l'escadron des Grecs n'eût pas fourni assez de capitaines aux armées ennemies, sinon qu'en ces glorieux jours. Ça n'était pas tant la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination. Ces choses étranges, extraordinaires, non croyables, que d'entendre parler de la vaillance que la liberté met au cœur de ceux qui la défendent. Et ce qui arrive partout, et tous les jours, devant nos yeux, en notre France, qu'un homme seul en opprime 100 000 et les prive de leur liberté, qui pourrait le croire s'il ne faisait qu'en entendre parler sans le voir? Et si cela n'arrivait que dans des pays étrangers, des terres lointaines, et qu'on vint nous le raconter, qui ne croirait ce récit purement inventé? Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, de le défaire. Il est de soi-même défait, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne faut pas lui ôter rien, mais ne lui donner rien. Il n'est pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Donc, ce sont les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt se font malmener, puisque en cessant de servir, ils en seraient quittes. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix entre servitude et liberté, quitte la liberté et prend le joug. Qui consent à son mal, ou plutôt le recherche. S'il lui coûtait quelque chose à recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point. Même s'il doit avoir le plus à cœur de rentrer dans ses droits naturels et pour ainsi dire de bête, redevenir homme. Mais je ne désire pas de lui si grande hardiesse. J'admets qu'il préfère je ne sais quelle sûreté de vivre misérablement qu'une douteuse espérance de vivre comme il l'entend. Mais quoi ? Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer. S'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qu'il estime encore trop chère, la pouvant gagner d'un seul souhait ? Comme le feu d'une petite étincelle grandit et toujours se renforce, et plus il trouve de bois brûlé, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même dès qu'on cesse de l'alimenter. De même les tyrans. Plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur donne, plus on les sert. Mais si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans les combattre, sans les frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus rien. De même que la branche, n'ayant plus de sucre ni d'aliment à sa racine, devient sèche et morte. Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer. Or, il n'est une seule chose que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer, c'est la liberté, qui est pourtant un bien si grand et si doux. Quel perdu ! Tous les maux viennent à la file. Et sans elle, les autres biens perdent entièrement leur goût et leur saveur, corrompus par la servitude. La seule liberté, les hommes ne la désirent point, me semble-t-il, pour la seule raison que s'ils la désiraient, il l'aurait. Comme s'il refusait de faire cette belle acquisition parce qu'elle est trop aisée. Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Pillez vos champs, volez vos maisons et les dépouillez des meubles anciens de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous vient non pas des ennemis, mais certes oui bien de l'ennemi, de celui que vous avez fait si grand. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, pas plus que le moindre homme du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tant Dieu qui vous épie, sinon de vous ? D'où tire-t-il tant de mains qui vous frappent, sinon de vous? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue, traîtres à vous-même? Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et prompt à vous tenir la bride plus courte. De tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les ressentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayez même pas de vous en délivrer, seulement de le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser ni de l'ébranler, mais simplement ne le soutenez plus. Et vous le verrez, tel un grand colosse à qui l'on a dérobé sa base, de son propre poids fondre en bas et se rompre. Cherchons un peu à comprendre comment cette opiniâtre volonté de servir s'est enracinée si profond qu'on croirait maintenant que l'amour même de la liberté ne soit pas si naturel. Il est, je le crois, hors de doute, que si nous vivions avec les droits que la nature nous a donnés et les enseignements qu'elle nous apprend, nous serions naturellement obéissants à nos parents, sujets à la raison et esclaves de personne. De l'obéissance que chacun, sans autre avertissement que de son naturel, porte à ses pères et mères, tous les hommes en sont témoins. Quant à savoir si la raison est innée en nous ou non, cette question est amplement débattue par les platoniciens et toute l'école des philosophes, mais je ne pense pas m'égarer en disant qu'il y a en notre être un germe naturel de raison. Mais ce qu'il y a de clair et d'évident que personne ne peut ignorer, c'est que la nature nous a tous faits de même forme, coulés dans le même moule, afin de nous reconnaître tous comme égaux. Ou plutôt, frères. Et si, dans le partage qu'elle a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, elle n'a cependant pas voulu nous mettre en ce monde comme sur un champ de bataille. Elle n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ou les plus adroits comme brigands armés pour malmener les plus faibles. Croyons plutôt qu'en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns et plus petites aux autres, elle a voulu faire naître l'affection fraternelle, les plus forts portant secours aux plus faibles. Il est essentiel en amitié de se mettre au niveau d'un inférieur. Cicéron, Laelius de Amicitia, 20-69. Ceux qui, dans le cercle de leurs amis ou de leurs relations, possèdent quelque supériorité, doivent se mettre au niveau de ceux qui leur sont inférieurs. Et de la même façon, ceux qui sont inférieurs ne doivent pas s'affliger de se voir surpassés par leurs proches en talent, fortune ou dignité. 20-71. Dans ces conditions, si ceux qui sont supérieurs doivent le faire oublier dans leur rapport d'amitié, ils doivent aussi trouver le moyen de relever leurs inférieurs. 20-72. Cicéron. Grand zélateur du bien public. Donc, puisque cette bonne mère, la nature, nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés en même maison, nous a tous formés sur le même modèle afin que chacun se pût reconnaître l'un dans l'autre comme dans un miroir, puisqu'elle nous a donné ce grand présent de la voix et de la parole, afin de nous accointer, fraterniser davantage et faire, par l'échange et la communication de nos pensées, la communion de nos volontés. Puisqu'elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le nœud de notre alliance, de notre société. Puisqu'elle a montré en toute chose qu'elle ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul corps. Comment douter alors que nous nous soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux? Il ne peut entrer en entendement de personne que la nature ait mis quiconque en servitude, puisqu'elle a mis tout le monde en égalité. À la vérité, il est bien inutile de débattre si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire tort. Or, il n'est rien de plus contraire à la nature, qui est toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle. C'est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas nés uniquement en possession de la liberté, mais aussi avec la passion de la défendre. Et si d'aventure nous nous faisions quelques doutes en cela, tant abâtardis que nous serions au point de ne pas reconnaître nos biens et nos désirs naturels, il faudra que je vous fasse l'honneur qui vous appartient et que je monte, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chair, afin de vous enseigner votre nature et votre condition. Les bêtes, si les hommes veulent bien les entendre, leurs cris vivent la liberté. Plusieurs d'entre elles meurent aussitôt prises. Tel le poisson qui perd la vie sitôt tiré de l'eau, elles se laissent mourir et ne veulent pas survivre à leur liberté naturelle perdue. D'autres bêtes, des plus grosses ou plus petites, font aussi grande résistance d'ongles, de cornes, de becs, de pieds, qu'elles déclarent assez quel prix elles accordent à ce qu'elles perdent. Une fois prises, elles nous donnent des signes visibles de la connaissance de leur malheur. On les voit languir et non pas vivre. Gémir leur bonheur perdu et non se plaire en servitude. Que veut dire d'autre l'éléphant qui s'étant défendu jusqu'à n'en pouvoir plus, sans plus d'espoir, sur le point d'être pris, enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que le grand désir de demeurer libre lui donne l'idée de marchander avec les chasseurs. Peut-être pourrais-je, en contrepartie de mes dents, de mon ivoire, garder ma liberté. Nous flattons le cheval dès sa naissance pour l'habituer à servir. Mais lorsque nous voulons le dompter, malgré nos caresses, il mord son frein et rue sous l'éperon. Il veut bien dire par là, ce me semble, qu'il ne sert pas de son gré, mais bien sous notre contrainte. Que faut-il donc dire ? Même les bœufs sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent. Comme j'ai dit autrefois, passons le temps à nos rimes françoises. Ainsi donc, puisque tout être pourvu de sentiments sent le malheur de la suggestion, puisque les bêtes, même faites pour le service de l'homme, ne peuvent se soumettre qu'avec protestation d'un désir contraire, quelle malchance a pu dénaturer l'homme seul vraiment né pour vivre librement, au point de lui faire perdre la souvenance de son état premier et le désir de le reprendre. Oderint dum metuam. Oderint dum metuant. Oderint dum metuant, qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Cicéron, citant Lucius Assius, citant lui-même Atrée, père de toute la lignée des Atrides, et père d'Agamemnon, tyran de Mycène. Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par les armes, les autres par succession de dynasties, et les derniers par élection du peuple. Ceux qui ont acquis le pouvoir par le droit de la guerre se comportent comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois ne sont généralement guère meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie, ils tirent avec le lait la nature du tyran et regardent les peuples qui sont sous eux comme leurs serfs héréditaires. Celui qui tient son pouvoir du peuple devrait être, ce me semble, plus supportable. Mais dès lors qu'il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur, il décide de n'en plus bouger et considère presque toujours le pouvoir que le peuple lui a légué comme devant être transmis à ses enfants. Or, dès que ceux-ci ont adopté cette opinion, il est étrange de voir comme ils surpassent en toutes sortes de vices et même en cruauté les autres tyrans. Ils ne trouvent d'autres moyens pour fonder leur nouvelle tyrannie que de renforcer la servitude et d'écarter si bien les idées de liberté de l'esprit de leurs sujets que, pour récent qu'en soit le souvenir, ils s'effacent bientôt de leur mémoire. Entre ces trois sortes de tyrans, je vois bien quelques différences, mais de choix, je n'en vois guère. Les moyens d'accéder au pouvoir sont divers, mais la façon de gouverner est toujours à peu près la même. Les conquérants se comportent en prédateurs, les successeurs considèrent le peuple comme un troupeau d'esclaves leur appartenant naturellement, et ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter. Je poserai cette question. Si par hasard, il naissait aujourd'hui quelques gens tout neufs, ni accoutumés à la suggestion, ni affriandés à la liberté, ignorant jusqu'au nom de l'un ou de l'autre, et qu'on leur proposât d'être sujet ou de vivre libre, quel serait leur choix ? Sans aucun doute, ils préféraient de beaucoup obéir à la seule raison que de servir un homme. Car pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une. Ou qu'ils soient contraints, ou qu'ils soient trompés. Bien souvent, ils perdent leur liberté en étant trompés. Et en cela, ils ne sont pas toujours séduits par autrui. Mais bien souvent, ils sont trompés par eux-mêmes. Ainsi, le peuple de Syracuse, capitale de la Sicile antique, les Syracusains, inquiétés par des menaces d'invasion venues des Carthaginois, en proie à des querelles politiques intestines et sentant vaciller leur démocratie, élurent un certain Denis, simple scribe, et lui confièrent le commandement général de l'armée. Quelque temps après, ce malin, démagogue et manipulateur, inventa une conspiration contre lui pour obtenir des pouvoirs plus grands, trompant ainsi les Siciliens afin de parvenir au but qu'il se proposait d'atteindre, et donc ce Denis, élu capitaine par le peuple, se fit de capitaine roi, puis de roi tyran, et il exerça une autorité absolue jusqu'à sa mort. Il régna pendant 38 ans. Et naturellement, son fils lui succéda. C'est ce que nous rapporte le grand historien Diodore de Sicile. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un oubli si profond de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. 38 ans. Il sert si bien, si volontiers, qu'on dirait à le voir qui n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais les descendants servent sans regret et font volontiers ce que leur devancier avait fait par contrainte. Les hommes nés sous le joug, élevés et nourris dans la servitude, se contentent de vivre comme ils sont nés. Ils ne pensent pas avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance. L'habitude. L'habitude qui exerce en toute chose un si grand pouvoir sur nous a surtout celui de nous apprendre à servir. Et à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer, comme on dit de Mithridate qui finit par s'habituer au poison à force de s'en injecter. Nul doute que la nature ne nous dirige là où elle veut, bien née ou mal née, mais il nous faut bien avouer qu'elle a sur nous moins de pouvoir que l'habitude. L'habitude nous forme toujours à sa façon, malgré la nature. Tenez, c'est Plutarque qui raconte que Lycurgue, législateur de Sparte, avait élevé deux chiens, tous deux frères, tous deux nourris au même lait, mais l'un engraissé à la cuisine et l'autre habitué à courir les champs au son de la trompe et du cor, habitué à la chasse. Pour montrer au peuple la force de l'habitude sur les hommes, Lycurgue met les chiens en plein marché. Entre eux, une soupe et un lièvre. Eh bien, l'un des deux chiens courut vers le plat et l'autre vers le lièvre. « Et pourtant, dit-il, ils sont frères. » La force de l'habitude. Je suis d'avis qu'il faut avoir de la pitié pour ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug. On doit leur pardonner ou les excuser si, n'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant jamais entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. 38 ans. S'il y avait quelques pays, comme le dit Homère des Cimériens, où le soleil se montre tout différent qu'à nous, où, après avoir éclairé les hommes pendant 6 mois consécutifs, il les laisse dans l'obscurité sans les venir voir durant les 6 autres mois, faudrait-il s'étonner que ceux qui naîtraient durant cette longue nuit, s'ils n'avaient ouï parler de la clarté et n'ayant jamais vu le jour, ne s'accoutument aux ténèbres sans désirer la lumière? On ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le regret ne vient qu'après le plaisir. Et au moment du malheur arrive la souvenance de quelques joies passées. La nature de l'homme est donc bien d'être libre et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement il prend le pli que l'éducation lui donne. La première raison de la servitude de l'homme, c'est le péché, disait saint Augustin. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. C'est ce qui arrive à ces braves chevaux, qui d'abord mordent leur frein, puis s'enjouent, qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent maintenant d'eux-mêmes sous le harnais et, tout fiers, se rengorgent sous l'armure. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal. Ils s'en persuadent même et affermissent par la durée la possession de ceux qui les tyrannisent. Mais les ans ne donnent jamais le droit de faire le mal et accroissent l'injustice. Il s'en trouve toujours quelques-uns mieux nés que les autres qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer, qui ne s'apprivoisent jamais à la soumission, qui, tel Ulysse, cherchant sans cesse par terre et par mer la fumée de sa maison, n'oublient jamais leurs droits naturels, leur origine, leur état premier et s'empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds. Ils se remémorent le passé pour juger le présent et prévoir l'avenir. Ce sont eux qui, ayant d'eux-mêmes la tête bien faite, l'ont encore affinée par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté sera entièrement perdue et bannie de ce monde, l'imaginerait, la sentant en leur esprit, et encore la savourant, et la servitude les dégoûte, même déguisée. Le grand Turc s'est bien avisé de cela, que les livres et la pensée donnent aux hommes plus que toute autre chose le sens de l'entendement et de la dignité, et la haine de la tyrannie. Aussi dans cette ère, il n'est guère de savants, d'ailleurs il n'en veut pas. Le zèle et la passion de ceux qui sont restés, malgré les circonstances, adeptes de la liberté, demeurent sans effet parce qu'ils sont tout simplement inaudibles, aussi nombreux soient-ils. Les tyrans leur enlèvent toute liberté d'agir, de parler et presque de penser. Et ils demeurent isolés dans leurs rêves. Pour revenir à mon sujet que j'avais presque perdu de vue, la première raison pourquoi les hommes servent volontairement et qu'ils naissent serfs et sont élevés comme tels, de cette première raison en découle une autre. Sous les tyrans, les hommes deviennent aisément lâches et amollis. Il est certain qu'en perdant la liberté, on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n'ont ni ardeur ni âpreté au combat. Ils y vont comme ligotés, tout engourdis, s'acquittant avec peine d'une obligation. Ils ne sentent pas bouillir dans leur cœur l'ardeur de la liberté. Chez les hommes libres, au contraire, c'est à l'envie, à qui mieux mieux, chacun pour le bien commun, chacun pour soi. Ils savent qu'ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens soumis, dépourvus de courage, de vivacité, ont le cœur bas et mou, et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien, qui font tout leur possible pour mieux les avachir encore. Cette ruse des tyrans d'abêtir leurs sujets ne se peut connaître plus clairement qu'en rappelant la conduite de Cyrus envers les Lydiens. Après s'être emparé de Sardis, maîtresse ville de Lydie dans l'ancienne Turquie, après avoir capturé le très riche roi Crésus, on lui rapporta à Cyrus que les habitants de Sardis s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance, mais ne voulant ni mettre à bas une tant belle ville, ni être obligé d'y tenir une armée pour la garder, il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession. Il établit, dans Sardis, des bordels, des tavernes, des jeux publics, et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s'y rendre. Il se trouva si bien de cet aménagement que jamais contre les Lydiens il ne lui fallut tirer l'épée. Ces misérables s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que les Latins en ont tiré le mot que nous appelons passe-temps. Ils l'appellent ludie. Lydie, ludie. Ludie, ludique. Tous les tyrans n'ont pas déclaré aussi expressément vouloir amollir leurs sujets. Mais ce que Cyrus ordonna très officiellement, la plupart l'ont fait sans en rien dire. À dire vrai, c'est le penchant naturel du peuple ignorant d'être confiant envers celui qui le trompe. Nul oiseau ne se laisse prendre mieux à la pipée, nul poisson appâté par le ver ne mord plus tôt à l'hameçon que tous ces peuples se laissant promptement allécher par la servitude à la moindre douceur qu'on leur passe devant la bouche. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de même espèce étaient, pour les peuples anciens, les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ainsi, ces peuples assotis trouvaient beau tous ces passe-temps ludiques, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, et s'accoutumaient à servir tout aussi niaisement, mais bien plus mal que les enfants, qui, pour voir les luisantes images des livres enluminés, apprennent à lire, eux. Les tyrans romains renchérirent sur tous ces artifices en faisant festoyer souvent, abusant, comme il le fallait, cette canaille qui se laisse aller plus que toute autre chose au plaisir de la bouche. Le plus avisé, le plus éveillé parmi toute cette canaille n'eut pas lâché son écuelle de soupe pour recouvrer la liberté de la République de Platon. Le tyran faisait largesse d'un quart de blé, d'un demi-litre de vin, d'une petite pièce. Et alors c'était pitié d'entendre crier « Vive le roi !» Ces lourdeaux ne se rendaient pas compte qu'ils ne faisaient que recouvrer une partie de leur bien, que cela même qu'ils recouvraient, le tyran n'aurait pas pu le leur donner si auparavant il ne le leur avait enlevé. Celui qui tel jour ramassait la petite pièce, celui qui tel jour se gorgeait au festin public bénissant Tibère et Néron et leur belle libéralité, le lendemain était contraint d'abandonner ses richesses à l'avidité de ses magnifiques empereurs, ses enfants à leur luxure, son sang même à leur cruauté. Et il ne disait mot, comme une pierre. Et il ne bougeait pas plus qu'une souche. Je ne vois personne aujourd'hui qui ne tremble en entendant parler de Néron, ce vilain monstre, cette ordure, cette sale peste du monde. Et pourtant, après sa mort, ce fameux peuple romain en conçut tant de déplaisir, se souvenant de ses jeux et de ses festins, qu'il fut sur le point d'en porter le deuil. C'est du moins ce qu'en rapporte Tacite, grand historien, un des plus fiables. Ça n'est pas étrange, vu que ce même peuple romain avait fait la même chose auparavant à la mort de Jules César. Jules César, qui donna congé aux lois et à la liberté. Dans ce personnage, on louait surtout, ce me semble, son humanité. Elle fut plus funeste que la pire cruauté du tyran le plus sauvage. À la vérité, c'est sa venimeuse douceur envers le peuple romain qui sucra le breuvage de la servitude. Mais après sa mort, ce même peuple romain, ayant encore à la bouche le goût de ses banquets et à l'esprit le souvenir de ses prodigalités, amoncela à l'envi les bancs de la place publique pour lui faire un grand bûcher d'honneur. et lui éleva une colonne, comme au père du peuple. Un chapiteau portait cette inscription. Et lui fit plus d'honneur, tout mort qu'il était, qu'il n'aurait dû en faire à tout homme vivant, et d'abord à ceux-là même qu'il avait tués. Et ils n'oublièrent pas non plus cela, les empereurs romains, de prendre le titre de tribun du peuple, tant cet office était tenu pour saint et sacré. Par ce moyen, il s'assurait une plus grande confiance du peuple. Comme s'il lui suffisait à ce peuple d'entendre ce nom de tribun sans avoir besoin d'en ressentir les effets. C'est vraiment lamentable de découvrir ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie. De voir de quels petits moyens ils se servaient, se couvrant volontiers du manteau de la religion, trouvant toujours la populace si bien disposée à leur égard qu'ils n'avaient qu'à tendre le filet pour la prendre. Ils n'ont jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l'ont jamais mieux asservie que lorsqu'ils s'en moquaient le plus. Ceux d'aujourd'hui ne font guère mieux, qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public ou le soulagement général. On connaît la formule dont ils font si finement usage. Mais peut-on parler de finesse là où il y a tant d'impudence ? Et j'en viens maintenant à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination, le fondement et le soutien de la tyrannie. Qui pense que les hallebardes, les gardes, le guet protègent le tyran se tromperaient fort. Ils se servent de cet attirail plus par pure formalité, par pur épouvantail que par confiance. Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, les compagnies de gens à pied, les armes qui défendent le tyran. On ne le croira pas du premier coup, mais c'est pourtant vrai. Ce sont toujours 4 ou 5 personnes qui soutiennent le tyran et tiennent tout le pays en soumission. Et il en a toujours été ainsi. 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran, ont pu s'en approcher, ont été appelés par lui pour être complices de ses crimes, compagnons de ses plaisirs et bénéficiaires de ses rapines. Ces 5 ou 6 en ont sous eux 500 ou 600 qu'ils corrompent. Ces 500 ou 600 tiennent en leur dépendance 5 ou 6 000 qu'ils élèvent en dignité. Ils leur font donner le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers. Grande est la série, et qui voudra s'amuser à en dévider le fil verra que non pas 6 000, non pas 100 000, mais des millions par cette chaîne se tiennent au tyran. Établissement de nouvelles fonctions, institution de nouveaux offices, non pas pour réorganiser la justice, mais pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, qu'on en vient là. Par les faveurs et sous-faveurs, les gains et regains que l'on reçoit du tyran, il se trouve presque aussi nombreux ceux auxquels la tyrannie profite que ceux auxquels la liberté serait agréable. Dès qu'un roi se déclare tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneux, de petits faquins qui ne peuvent faire ni bien ni mal dans une république, mais tous ceux qui sont possédés d'une ardente ambition, d'une notable avidité, tous ces manche-peuples s'amassent sous lui et le soutiennent pour avoir leur part du butin et être sous le grand tyran, petit tyrannos eux-mêmes. Ainsi, le tyran asservit ses sujets les uns par les autres. Il est gardé par ceux desquels, s'ils avaient quelque valeur, ils devraient se garder. Mais comme on dit, pour fendre du bois, il faut des coins du même bois. Voilà ces vrais archers, ces vrais gardes, ces vrais hallebardiers. Quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, il me prend souvent ébahissement de leur méchanceté et aussi, quelquefois, pitié de leur sottise. Car à dire vrai, qui s'approche du tyran s'éloigne de sa liberté et, pour ainsi dire, embrasse sa servitude. qu'ils mettent un peu à part leur ambition, qu'ils se dégagent un peu de leur avidité, et puis qu'ils se regardent, qu'ils se considèrent eux-mêmes. Ils verront clairement que ces villageois, ces paysans qu'ils foulent aux pieds tant qu'ils le peuvent, dont ils font des forçats, des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, si malmenés soient-ils, sont plus heureux et libres qu'eux. Le laboureur, l'artisan, tout asservi qu'il soit, en sont quittes en obéissant. Mais le tyran voit ceux qui l'entourent, mendiant et coquinant sa faveur. Faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il dit, mais qu'il pense ce qu'il veut. Et souvent, pour le satisfaire, qu'il prévienne encore ses désirs. Ça n'est pas le tout de lui obéir, faut encore lui plaire. Il faut qu'il se rompe, se tourmente, se tue à traiter ses affaires. Il faut qu'il se plaise de son plaisir, qu'il sacrifie leur goût pour le sien, qu'il force leur tempérament et dépouille leur naturel. Il faut qu'ils prennent garde à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes. Il faut continuellement que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient à épier ses volontés, à deviner ses pensées. Est-ce là vivre heureux? Est-ce là vivre? Y a-t-il rien au monde de plus insupportable que cela? Je ne dis pas à un homme de cœur, je ne dis pas à un homme bien né, non. Je dis simplement à un homme de bon sens, un homme ayant une face d'homme. Quelle condition est plus misérable que de vivre ainsi, n'ayant rien à soi, tenant d'autrui son aise, sa liberté, son sang, sa vie? Mais ils veulent servir. Ils veulent servir. Ils veulent servir pour avoir des biens. Comme s'ils pouvaient rien gagner qui soit à eux, alors qu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont eux-mêmes à eux. Comme si l'on pouvait rien avoir à soi sous un tyran, ils veulent des biens qui soient à eux, oubliant que ce sont eux qui leur ont donné le pouvoir d'ôter tout à tous. Ils voient pourtant que ce sont les biens qui rendent les hommes sujets à sa cruauté, qu'il n'y a pas de crime plus digne de mort selon lui que le bien d'autrui, qu'ils n'aiment que les richesses, et ne s'attaquent qu'aux riches. Et ils viennent s'offrir, comme les moutons devant le boucher, pleins et refaits, comme pour lui faire envie. Ses favoris devraient moins songer au grand nombre de ceux qui ont acquis des richesses qu'au petit nombre de ceux qui les ont conservées. Et même les gens de bien, il arrive parfois que le tyran les aime. Si avancés qu'ils soient dans ses bonnes grâces, si brillante que soit en eux la vertu, l'intégrité, ces gens de bien, dis-je, ne sauraient se maintenir auprès du tyran. Tel un Sénèque, un Burrus, un Thraséas, cette trinité de gens de bien dont les deux premiers eurent le malheur de s'approcher du tyran Néron, qui leur confia le maniement de ses affaires, tous deux chéris de lui, et bien que l'un d'eux, Sénèque, l'eût élevé. Ces trois-là, dont la mort fut si cruelle. Sénèque, grand poète, grand philosophe, suicidé sur ordre de Néron. Ces trois-là ne sont-ils pas un exemple suffisant du peu de confiance que l'on doit avoir dans la faveur d'un méchant maître? Quelle amitié peut-on espérer de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume pourtant obéissant? De celui qui, ne sachant aimer, s'appauvrit lui-même et détruit son propre empire? Et si l'on veut dire que ces trois-là sont tombés en disgrâce parce qu'ils étaient trop gens de bien, qu'on regarde autour de Néron lui-même, on verra que tous ceux qui, mauvaises gens, furent en ses bonnes grâces, n'eurent pas une fin meilleure. Qui a jamais entendu parler d'amour aussi effréné et d'affection aussi opiniâtre? Qui a jamais vu homme aussi obstinément attaché à une femme que Néron à Poppée? Or, elle fut empoisonnée par lui-même. Agrippine, sa mère, tua son propre mari, Claude, pour lui faire à Néron place sur le trône. Elle avait tout entrepris, tout souffert pour le favoriser. Donc, son nourrisson, son fils même, qu'elle fit empereur de ses propres mains, lui ôta la vie. Les tyrans bêtes restent bêtes, au point de ne jamais savoir faire le bien. Mais je ne sais comment, à la fin, le peu qu'ils ont d'esprit se réveille en eux pour user de cruauté même envers leurs proches. Le tyran n'est jamais aimé et n'aime jamais. L'amitié, c'est un nom sacré, une chose sainte. Elle ne se met qu'entre gens de bien. Elle naît d'une estime mutuelle. Elle s'entretient moins par les bienfaits que par l'honnêteté. Ce qui rend un ami sûr, c'est son intégrité, sa bonté naturelle, sa fidélité, sa constance. Il ne peut y avoir d'amitié là où est la cruauté, la déloyauté, l'injustice. Aussi, des amitiés véritables se rencontrent bien difficilement chez ceux qui se consacrent aux charges ou à la chose publique. Où trouver en effet quelqu'un qui préfère voir son ami élu plutôt que lui-même? 1764. Entre méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, non une compagnie. Ils s'entrecraignent, ils ne s'entraînent pas. Il serait bien difficile de trouver chez un tyran un amour sûr, car étant au-dessus de tous les autres et n'ayant pas d'égal, il se trouve déjà au-dessus des bornes de l'amitié. Et l'amitié ne fleurit que dans l'égalité. Les favoris d'un tyran ne sauraient jamais avoir aucune confiance en lui, puisque c'est à lui qu'ils ont appris qu'il peut tout, qu'aucun droit ni devoir ne l'oblige, qu'il n'a pour seule raison que sa volonté, qu'il n'a pas d'égal, qu'il est le maître de tous. N'est-il pas grande pitié que malgré tant d'exemples éclatants et voyant le danger si présent, personne ne veuille tirer leçon des misères d'autrui, que tant de gens s'approchent si volontiers des tyrans? N'est-il pas grande pitié qu'il n'y en ait pas un pour avoir le courage et la prudence du renard de la fable d'Ésope? Un lion, à qui son grand âge ne permettait plus de se procurer la nourriture par la force, eut recours à un stratagème. Il entra dans une grotte et s'y coucha, feignant d'être malade, et il faisait sa proie des animaux venus le visiter. Beaucoup avaient déjà péri quand le renard se présenta. Il s'arrêta à distance de la grotte et demanda au lion comment il allait. « Mal, lui répondit celui-ci, et il ajouta, « Mais pourquoi n'entres-tu pas ?» « Je l'aurais fait, dit le renard, si je ne voyais beaucoup de traces d'animaux qui sont entrés, mais d'animal qui soit sorti, aucune. » Mais encore, supposons que ses favoris échappent aux mains de celui qu'ils servent. Ils ne se sauvent jamais des mains du roi qui vient après. S'il est bon, il leur faut rendre des comptes et se soumettre à la raison. S'il est mauvais et pareil au précédent, il aura lui aussi ses favoris qui, non contents de leur prendre leur place, leur arrachent aussi le plus souvent leur bien et leur vie. Se peut-il donc qu'il se trouve quelqu'un qui, en si grand péril et avec si peu de garantie, veuille prendre une position aussi malheureuse et servir avec tant de souffrance un maître si dangereux? Quelle peine! Elle martyre, grand Dieu. Être occupé jour et nuit à plaire à un homme et le craindre plus que quiconque. Avoir toujours l'œil aux aguets, l'oreille à l'écoute, pour épier d'où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour tâter la mine de ses concurrents et deviner le traître. Sourire à chacun et se méfier de tous. N'avoir aucun ennemi déclaré ni aucun ami assuré. Avoir toujours le visage enjoué et le cœur transi. Ne pouvoir être joyeux et n'oser être triste. Pauvres et misérables peuples insensés, nation opiniâtre en votre mal et aveugle en votre bien, vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Pillez vos champs, volez vos maisons et les dépouillez des meubles anciens de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, où vient non pas des ennemis, mais certes oui, bien de l'ennemi, de celui que vous avez fait si grand. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous ? Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et prompt à vous tenir la bride plus courte. Soyez résolu de ne servir plus et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser ni de l'ébranler, mais simplement, ne le soutenez plus. Et vous le verrez, tel un grand colosse à qui l'on a dérobé sa base, de son propre poids fondre en bas et se rompre.